Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs organisatrices d'avoir accepté ma proposition de communication aujourd'hui. Donc, qui va porter effectivement sur les mécanismes d'emploi dans la sécurité privée, avec l'idée d'essayer de comprendre comment se renforcent. Merci. Les rapports sociaux. Je vais commencer par essayer de proposer une définition des rapports sociaux qui se définissent donc par des enjeux au cœur de la production, de la différenciation et de la hiérarchisation sur les plans à la fois matériels et symboliques de groupes sociaux qui sont pris dans des rapports structurels de domination et qui font face à ces effets dans des cadres interactionnels. On peut dire que ces groupes se retrouvent dans un rapport de force catégorielle et que les individus concernés contribuent volontairement ou involontairement, par agir ou par la perception de leur part ou d'autrui à ces représentations héritées. Et leur force de conservation permet éventuellement, c'est ce qui arrive dans la sécurité privée, de limiter les actions individuelles ou collectives à leur égard. Ainsi, de façon générale, je commence par des généralités, l'infériorisation des femmes, des personnes non blanches, de ceux et celles qui effectuent des petits métiers ou le sale boulot, sont des conséquences de ces processus sociaux, donc on est dans une perspective d'intersectionnalité des rapports sociaux. Alors, mon propos s'appuie sur une recherche menée entre 2008 et 2012 dans différents secteurs, différents domaines, différents mondes de la sécurité privée, autant par entretien un peu au fil de l'eau selon les possibilités de recrutement que par observation dans une agence ou dans des centres de formation. Et j'ai aussi fait un peu de statistiques sur un dossier de candidature, sur un corpus de candidature dans une agence du sud-est de la France, 500 candidatures entre 2004 et 2009. Avec aussi des entretiens avec d'autres professionnels, des inspecteurs du travail, bon, des formateurs. Voilà, des choses un peu éparses, précisément, qui ont rendu le travail, ce que j'ai voulu l'expliciter dans le papier que j'ai envoyé, parce que ça rend l'approche difficile, parfois l'écriture difficile, mais ça permet d'identifier des porosités au niveau de l'emploi de façon générale, et de contrer une première idée, qui est qu'en dépit de la formalisation faite par le secteur d'activité, en particulier les experts, en particulier à partir du milieu des années 2000, il y a des formes de choses comparables, d'organisation de l'emploi flexible, donc comparable entre différents types de métiers, entre différents postes qu'on imagine, vigile de grande surface ou agent de sécurité dans une boîte de nuit ou même agent de nuit dans une industrie. En fait, l'emploi, la rémunération, la gestion interne de la main-d'œuvre et les parcours professionnels sont plus complexes et finalement parfois beaucoup plus comparables que ce qu'on imagine si on a simplement une approche en termes d'activité. Par ailleurs, la sécurité privée s'apparente pleinement à un métier ou un secteur de service, entendu comme, pour reprendre une définition de Niki Lefebvre et Benelli et Ray, paru en 2012, orienté vers la production de biens immatériels plutôt que d'objets tangibles et impliquant des interactions directes ou indirectes. Ici, le indirect est assez important, puisque parfois il n'y a pas d'interaction directe dans l'activité d'agent de sécurité, entre salariés et bénéficiaires ou destinataires, puisque les bénéficiaires ne sont pas forcément destinataires, des services. Donc, voilà, un ensemble d'éléments qui font que j'ai essayé d'aller dans différentes zones et qui vont peut-être rendre parfois le propos pas forcément facile à suivre, mais je vais essayer de parler de la sécurité privée comme système d'exploitation flexible qui crée en fait les conditions d'une adaptation, enfin qui crée un impératif d'adaptation permanente dans un système d'emploi qui contribue, c'est ce que j'essaie de dire, au renforcement des rapports sociaux. Dans une catégorie professionnelle qui, elle, est en quête de professionnalité d'une part, et au sein d'un monde social où une grande partie des individus qui appartiennent à ce métier, à ce service, à cette catégorie, sont eux-mêmes plutôt discriminés. Donc je vais d'abord présenter quelques éléments généraux sur l'organisation de l'emploi dans la sécurité privée, avant, plus particulièrement, d'essayer de montrer comment l'embauche et la gestion de main-d'œuvre contribuent à renforcer les rapports sociaux, donc de sexe, de race et de classe. Voilà. Donc, déjà pour commencer sur l'organisation, je parle ici des personnes embauchées par une entreprise de sécurité, c'est-à-dire des prestataires de services qui ont un contrat commercial passé entre un employeur, donc la société de sécurité privée, et un donneur d'ordre, c'est-à-dire le client. Donc en fait, on est dans une prestation de service où l'agent de service lui-même intervient comme prestataire extérieur sur le site de travail dans la plupart du temps. J'essaie d'ajouter des éléments de compréhension générale. Il y a une pratique de sous-traitance qui est très forte, sous-traitance au point qu'il y a souvent de la sous-traitance en cascade, c'est-à-dire que l'entreprise de sécurité privée qui détient le contrat elle-même fait appel à d'autres entreprises de sécurité privée, une ou plusieurs, en cas de besoin d'ajustement de la main-d'œuvre. Donc on a déjà une certaine opacité, parfois une inégalité hein, très claire, dans la gestion de l'emploi, à mon sens, déjà pose une première pression sur la main-d'œuvre. Et les personnes qui rejoignent ce secteur d'emploi de façon générale, qui cherchent un emploi à tout prix, sont nombreuses à ignorer ou à délaisser le droit au profit de l'emploi, évidemment, et de le fait d'avoir une rémunération. Cette sécurité privée fait partie des catégories professionnelles qui sont associées de façon générale à la précarité salariale. C'est ce que Frédéric Perroumal a montré en 2008 par un article un peu général, paru dans les actes de la recherche en sciences sociales. Et il faut l'entendre au sens large parce que ça va de l'image publique des agents de sécurité privée jusqu'à l'emploi en passant par les conditions de travail. J'essaye un petit peu d'ajouter cette idée d'image publique, même si elle n'est pas facile à démontrer, pour expliquer aussi cette précarité et cet héritage des représentations négatives, cette reproduction des représentations négatives dans ce secteur. Après, pour donner des éléments très concrets de l'emploi, le niveau de rémunération des salariés est plutôt bas, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne des employés et légèrement au-dessus d'autres catégories considérées comme peu qualifiées, comme dans le nettoyage ou comme la restauration rapide. Le recours au CDD dans ce secteur devient de plus en plus fréquent. On est à 74% de nouvelles embauches en CDD en 2015. Et comme le taux de transformation de CDD en CDI est très très faible, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent le secteur et beaucoup de personnes qui arrivent dans le secteur. Hein. On a un taux de rotation qui est de 60%, qui était plus haut avant, qui diminue légèrement, mais qui reste autour de 60%. Et en termes d'ancienneté, pour essayer aussi de donner encore des éléments un peu généraux, on a une ancienneté de moyenne de 5 ans et demi dans le secteur, avec une frange beaucoup plus stable, avec donc un écart type important, avec 20% des agents qui ont une ancienneté de 11 ans et plus, et 21% de moins d'une année. C'est les derniers chiffres du rapport de branche de la sécurité. Donc il y a à la fois de la précarité, en même temps une frange plus stable, et autant le dire aussi, c'est cette frange qui a été le plus facile à aborder, à approcher en enquête, celle qui a le plus aussi ouvert la parole pour des raisons diverses et variées. Excusez-moi. Donc, pour donner quelques caractéristiques de la main-d'œuvre à proprement parler, la sécurité privée, c'est environ 160 000 personnes, avec un tiers qui est âgé entre 26 et 39 ans, 86% d'hommes, 14% de femmes, donc on est dans un secteur à domination numérique masculine, avec cette petite particularité que la part de femmes augmente à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, avec toutefois un plafond qui se situe au niveau des postes de direction en tant que tel, mais dans l'encadrement, on a plus de femmes que d'hommes, qui s'expliquent aussi par des postes administratifs et donc par en fait des reproductions assez classiques hein, des assignations de genre selon l'activité. Par ailleurs, donc pour le côté sexe, le côté racisation des individus, le secteur semble particulièrement ouvert aux personnes de phénotype non blanc, en particulier immigrés, enfants d'immigrés du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et il me semble que je parle du phénotype parce qu'il y a cette idée de la racisation des individus est une entrée qui est à mon avis pertinente pour parler de l'emploi, puisqu'on est dans un métier de service avec une dimension interactionnelle parfois même distante, mais dans un métier de la visibilité ou de l'invisibilité, c'est vraiment une question à poser, à débattre. Donc cette racisation, elle se constate de façon impressionniste, elle ne peut pas tellement se démontrer, mais par le biais de la catégorie immigrée, qui n'est qu'une partie hein, de la réalité, 22%, à peu près 22% des emplois dans la sécurité, c'était en 2012, enfin en 2007, un papier de 2012, est occupé par des personnes immigrées. De façon générale, l'augmentation des effectifs, toujours pour rester sur l'emploi, pour avoir des données générales, est due à deux phénomènes. D'une part, l'augmentation du marché de façon générale en sécurité pour des raisons liées à l'agenda politique et à la pression des assurances insistant sur l'augmentation en sécurité depuis les années 80. D'autre part, l'externalisation qui a été le mode choisi pour assumer cette production au sein des entreprises, et auquel s'ajoute quelque chose que je n'ai pas pu montrer quantitativement, mais il faudrait que je le fasse, qui est la transformation de nombreux postes, notamment de certains postes, nombreux il faudrait le déterminer, de standards ou d'accueil par exemple, en agents de sécurité. Alors ça au niveau de l'emploi c'est très intéressant me semble-t-il, parce que ça permet pour l'employeur ou le donneur d'ordre d'avoir un individu qui cumule à la fois d'anciennes fonctions d'accueil de standard et la fonction de sécurité nécessaire à sa couverture en assurance. Et donc ici, on a un gain, on pourrait dire, de productivité vers son service, qui montre une sorte de cumul d'emplois, qui explique aussi pourquoi l'externalisation, qui pourrait paraître plus coûteuse pour une entreprise, reste en réalité plus rentable malgré tout, d'un point de vue strictement économique. Donc, de façon générale, la sécurité privée se donne à voir comme un secteur à l'embauche permanente, et avec en particulier un secteur refuge pour des personnes sur le marché du travail. Merci. Donc ici, pour parler des individus encore, il faut distinguer plutôt deux groupes, hein, en faisant une typologie très très sommaire. D'une part, une minorité des agents de sécurité formés au métier de la sécurité publique, en particulier d'anciens militaires, qui peuvent chercher dans ce secteur, après leur service, un air de famille professionnelle. Alors c'est un type d'agent qui est assez valorisé par les recruteurs parce que pour des raisons de formation, pour des raisons d'a priori de sérieux, d'aptitude à ces métiers sécuritaires. Et ce secteur est complété par des personnes qui sont aspirantes au concours de la force publique, que ce soit la police, gendarmerie, ou éventuellement aussi les concours des pompiers. Ça, c'est une tendance, là encore, qui devrait être étudiée un peu plus formellement, puisque les qualifications augmentant, de nombreuses personnes cherchant à passer ces concours trouvent dans la sécurité privée soit un temps, soit un emploi de transition avant de réussir les concours, soit éventuellement une formation supplémentaire, ou soit restent dans ce secteur parce que l'échec au concours existe. Voilà, je suis allé dans quelques lycées aussi de formation de bac pro prévention sécurité. Bon. L'autre groupe, qui est le groupe majoritaire, c'est plutôt des personnes au parcours scolaire et professionnel éloignées, voire très éloignées de la sécurité ou de la sécurité privée, et qui rejoignent le secteur par défaut. Alors, j'ai travaillé sur un campus de 500 candidatures dans une agence du Sud-Est spécialisée en industrie, et simplement pour donner des chiffres très simples, mais assez intéressant. Sur ces 500 candidatures, seul un quart des candidats-candidates ne présentaient ni expérience dans la sécurité privée, ni qualification en lien avec la sécurité pendant cette période. Plus de la moitié occupaient un dernier emploi hors sécurité privée au public. Donc là, on voit encore les parcours trembler et puis les changements de secteur de l'un à l'autre. Et 62% des personnes avaient principalement une expérience hors des métiers de la sécurité privée ou publique. Alors, j'ai fait une analyse de CV simplement en essayant de qualifier les expériences. Et donc, on voit bien que ce secteur attire beaucoup plus large que, de façon un peu évidente, mais ça le montre, je crois, n'attire pas la vocation. Pour le recrutement, soit il y a une orientation par Pôle emploi, soit dans le cas en particulier des Africains rencontrés pendant l'enquête, l'utilisation de réseaux formels informels participant de ces secteurs à l'embauche ethnique dont on parle dans d'autres domaines et qui existent aussi dans la sécurité privée et qui sont aussi montrés par d'autres chercheurs comme Patient Gandao dans sa thèse de 2010. Parfois, on a des agents surdiplômés, j'en ai rencontré quelques-uns, surdiplômés dans des postes d'enseignement supérieur qui ne l'indiquent pas forcément sur le CV, qui n'en font pas état et qui participent de ce qui a été dit tout à l'heure sur ces migrants dont les diplômes ne sont pas reconnus et qui trouvent des emplois refuges et totalement en décalage avec leur formation initiale, parfois très haut. Alors après, dans l'enquête, j'ai rencontré des diplômés supérieurs, un docteur en droit, j'ai indiqué un extrait d'entretien dans l'article, mais aussi des enfants d'agriculteurs traditionnels, des gens qui avaient un baccalauréat technique, enfin une population relativement variée qui montre cette hétérogénéité. Et donc du coup déjà on peut percevoir cette difficulté à imaginer un collectif de travail et des intérêts communs selon les parcours des personnes, leur habitus on pourrait dire. Excusez-moi. Donc dans un deuxième temps je vais essayer de montrer par entrées successives, comment on peut éventuellement parler de consubstantialité, de renforcement des rapports sociaux. Je ne suis pas sûr d'être allé au bout de ce que je comptais faire, ce sera peut-être une critique de ce papier, mais parce que je pense que ne pas avoir réussi assez à croiser les éléments, mais en tout cas, il y a des éléments d'étroits rapports sociaux qui peuvent donner lieu, à mon avis, à une certaine interprétation. Le premier élément important, c'est le maintien de fonctions sécuritaires masculines. Alors, il y a différentes modalités de construction des femmes comme groupe dominé dans ce cadre professionnel. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai l'impression que je vais pas réussir à dire ce que je voulais dire entièrement. La restriction à l'accès à l'univers professionnel en tant que tel, le traitement différencié à poste équivalent, et l'accès limité à certains postes au sein de l'univers professionnel, hein, de façon horizontale ou de façon verticale, hein, pour reprendre la distinction faite par Mariette Maroni. Alors, la hiérarchie dans l'entreprise, je l'ai déjà évoquée, donc je vais aller simplement directement sur les trois autres modalités. D'abord, l'accès à l'univers professionnel n'apparaît pas nécessairement restreint pour les femmes de façon un peu contre-intuitive, c'est-à-dire que dans le corpus de candidature, ce qui était assez intéressant, c'est que le taux de personnes, de femmes recrutées dans l'entreprise a correspondait au taux de femmes candidates. Et donc, ce qui montre a priori que quand des femmes candidates, elles ont des chances à peu près équivalentes que les hommes de postuler. Bien évidemment, ces taux sont très faibles et donc la représentation dominante reste, et c'est ça qui maintient déjà cette première restriction, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui candidatent, donc même quand elles sont recrutées, elles restent minoritaires, fortement minoritaires. Ce qui est plus intéressant et plus fondamental, c'est que quand elles sont recrutées, elles ne sont pas dispatchées de façon équivalente sur les postes existants dans ce secteur d'activité. Et pour le dire simplement, pour résumer le plus important, elles restent plutôt à l'extérieur, enfin, elles restent hors des secteurs, hors des postes visibles, merci, dans les espaces à usage public. C'est-à-dire que le peu de femmes qu'il y a sont encore plus invisibilisées et renvoyées soit à des postes, alors il y a différents postes qui existent, il y a des postes, ce qu'on appelle les inspecteurs au vol, c'est-à-dire des postes internes où les personnes sont en civil, se baladent dans les couloirs des magasins et surveillent, éventuellement signalent d'éventuels vols à leurs collègues qui, eux, masculins, sont identifiables, mais aussi en télésurveillance, les femmes sont plus nombreuses, ou alors dans des postes transformés d'accueil, où effectivement, là, les personnes sont formellement agentes de sécurité, mais en fait restent considérées et restent foncièrement avec des tâches d'accueil, de standard, etc. Et donc, de manière générale, on reste avec une distance des fonctions sécuritaires et du genre féminin dans ce secteur d'activité. Donc ça, c'est pour un premier élément. Ça avait déjà été montré avant et c'est ce que j'ai pu retrouver un peu dans l'enquête. De façon plus générale, on peut considérer que ce maintien du masculin et de la sécurité renvoie à l'impératif de maintien d'une forme de limites et de frontières possibles, d'une identité masculine propre à ce secteur d'activité qui, étant en position dominée dans les métiers sécuritaires et étant de façon générale discriminée en termes de, dominée en termes de rémunération, de stabilité d'emploi, etc., maintient une forme de frontière et maintient une forme de privilège masculin montré. On est dans une logique de monstration d'un rapport de genre et donc d'une inégalité de genre. De façon générale, dans d'autres secteurs incluant de la surveillance et de la catégorisation vis-à-vis des clients, ici au sens d'usager, de consommateur, on a là encore un rapport de genre maintenu avec à la fois, pour le dire relativement simplement, l'homme reste l'élément le plus important à surveiller du côté des consommateurs et des visiteurs, et ce qui là encore entretient l'importance du rapport au niveau de la catégorie masculine. Bon, mais je suis désolé, je pense que si je développe, je vais pas réussir à finir. Le deuxième rapport social interrogé, c'est le rapport social de race. De prime abord, le rapport social dans la société française, notamment, se s'opère entre les blancs et les personnes au phénotype noir ou arabe, ces dernières étant les plus visibles au poste d'agent de sécurité privée. Et donc là, on a des mécanismes successifs qui expliquent ce rapport. D'abord, la discrimination, les discriminations générales sur le marché du travail, et à un niveau plus fin, là encore, comme les femmes, une répartition plus spécifique des individus en fonction de leur couleur de peau, de leur phénotype, selon les postes concernés. Et les agents de sécurité privée racisés sont les personnes les plus visibles dans l'espace public. Elles apparaissent comme, certes, les plus postulantes, mais en plus, elles sont particulièrement visibles à ces postes-là. Et là, en comparant un peu l'industrie et le commerce, pour avoir pu observer un petit peu des deux univers, on a une très grande présence des agents d'origine africaine, au phénotype noir en tout cas, dans ces postes-là. Et ce qui est très intéressant dans le rapport social et qui existe, et qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a une forme de dimension positive à ce recrutement possible, donc en quelque sorte, évidemment, il faut mettre la nuance à tout ça, une forme de recrutement possible pour des catégories habituellement discriminées, mais en interne, là encore, au niveau plus fin, la répartition fait que les blancs peuvent rester privilégiés sur certains postes et qu'on peut éventuellement avoir une demande exclusive, c'est-à-dire demander que des blancs, que du blanc, pour reprendre un des entretiens aussi présentés, que du gaulois. C'est des expressions qu'on entend à la sécurité privée, à certains postes selon la demande du client. Et donc là encore, on voit bien qu'au niveau plus fin, il y a des formes de discrimination et de reproduction du rapport social. De façon générale, oui, je crois que j'arrive au bout. On peut dire que la question de la classe, c'est la question du fonctionnement socio-économique de la catégorie. Et là encore, on voit que des questions de statut, de qualification et de rémunération sont toujours contournées pour empêcher quelque chose qui serait une valorisation collective, voire de la mobilisation collective. Alors déjà, parce que différents statuts peuvent exister sur un même type de poste. Ça, j'ai pu observer ça dans une université. C'est-à-dire que pour à peu près le même emploi, on peut avoir des fonctionnaires, des contractuels, des sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants. Donc avec avec une certaine hétérogénéité, empêchant souvent la communication, le partage, voire la mobilisation de ces catégories. Les qualifications qui se sont produites, qui ont augmenté pendant les dernières décennies, restent encore détournées au profit de valorisation de la main-d'œuvre proposée par le client aux donneurs d'ordre et non pas reconnue en tant que telle comme qualification, pas toujours en tout cas. Et les rémunérations, elles aussi, donnent lieu à des formes de détournement, que ce soit par l'occupation d'emplois clandestins, de vacations supplémentaires, ou encore de créer des entreprises. Oui, c'est fini. Merci. Qui sont, oui. Non, oui, bien sûr. Qui sont elles-mêmes en très grande fragilité socio-économique. Et c'est-à-dire qu'on engage les individus, hein, la plupart du temps, en fait, à tenter leur chance, à devenir eux-mêmes, créer eux-mêmes leur société pour être clients privilégiés d'une entreprise. Mais tout ce secteur reste très sensible et très concurrentiel. Et donc, en fait, le client, le donneur d'ordre, reste fortement maître de ce qui se passe dans le secteur d'activité et participe d'une précarité générale, que ce soit des agents de sécurité ou même des petites entreprises se créant. Voilà. Bon. Pour conclure, peut-être que si je peux ajouter juste une petite phrase. On peut dire que... Oui, la conclusion serait justement irait vers l'extension de l'analyse du secteur, précisément à d'autres secteurs. Alors, j'ai évoqué les postes d'accueil tout à l'heure, et je pourrais aussi parler de la question du renseignement, par exemple. Hein, les agents de sécurité devenant des personnes qui renseignent, ce sont aussi des postes majoritairement masculins qui, finalement, posent une concurrence généralisée à tous les niveaux des rapports sociaux. Bon, en fait, je pense que je ne pourrais pas conclure comme ça. je suis désolé. Il y a un renforcement des rapports sociaux. Peut-être que ce sera plus simple d'en discuter que d'essayer de synthétiser des choses trop difficiles. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le retard.